comme les brillants entrepreneurs, épargnez chez Suno Assurance pour garantir le financement de vos projets. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Elles sont sournoises et silencieuses, elles peuvent rester longtemps tapies dans l'organisme avant de se déclarer. Près de 600 millions de personnes dans le monde souffrent de maladies rénales. Ces maladies qui empêchent les reins de filtrer correctement le sang de notre organisme. En France, 6 millions de personnes ont les reins malades et l'ignorent. Un tiers des insuffisants rénaux ne sont diagnostiqués qu'au stade terminal, au moment où la dialyse devient urgente. À l'occasion de la 14e semaine nationale du rein qui aura lieu du 9 au 16 mars, nous allons faire le point sur ces maladies rénales et sur le thème choisi par cette 14e édition, le rein et la santé de la femme. Les femmes développent des complications spécifiques liées notamment à la santé reproductive. Alors pourquoi et quand doit-on se faire dépister? Qu'est-ce qui provoque l'insuffisance rénale? Quelles sont ses conséquences? À quel moment doit-on recourir à la dialyse? Dans quel cas la greffe est nécessaire. Nous allons essayer de répondre à ces questions avec nos invités. Docteur Isabelle Tostivin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes néphrologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, spécialiste de la néphroprotection, prévention, dépistage de la dégradation de la fonction du rein. Vous présidez l'association LUNE pour la prévention des calculs rénaux et vous allez d'ailleurs publier le 14 mars un livre qui s'adresse au grand public, Calculs rénaux aux éditions Alpen. Michel Coulon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association France Rein, qui aide notamment les insuffisants rénaux et leurs proches, et qui organise des dépistages gratuits dans toute la France du 9 au 16 mars, pendant cette semaine nationale du rein. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec le docteur Soumaïla Diawara, néphrologue à la polyclinique Guindo à Bamako, Mali. Si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Tostivin, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler à quoi sert le rein et pourquoi il est vital pour l'équilibre de notre organisme ?
Le rein est un organe très complexe, très magique, c'est l'organe de la liberté. En fait, en permanence, on est agressé par notre métabolisme, par des toxines qu'il nous faut éliminer pour rester vivant. Or, tout cela se fait dans le calme, dans le silence, c'est un organe particulièrement silencieux. Ce qu'il fait, c'est comme un thermostat biochimique. Il va garder la composition de notre corps totalement régulée dans des valeurs très très étroites. Nos cellules baignent dans un liquide qu'on appelle la mer intérieure, le milieu intérieur, et cette composition est extrêmement importante pour nous garder en vie. Et donc l'organe rein fabrique l'urine pour excréter des toxines, mais il fait bien d'autres choses. Il fabrique aussi beaucoup d'autres choses. Il est pur, mais c'est aussi une glande hormonale. C'est une glande hormonale qui maintient la tension, qui fabrique le PO très cher aux cyclistes et qui fait encore beaucoup d'autres choses qu'on ne connaît pas.
Alors, on entend souvent dire « j'ai mal aux reins ». Est-ce qu'on a raison d'incriminer les reins ?
Lorsqu'on a une colique néphrétique ou une infection du rein qu'on appelle une pyélonéphrite, oui. Mais en dehors de ces deux situations, non. La plupart du temps, il s'agit de douleurs vertébrales.
Parce qu'il faut peut-être rappeler la place du rein. Il n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas au bas du dos.
Non.
Ils ne sont pas au bas du dos.
Non, ils sont sous les côtes. Les reins sont deux organes. Donc on en a deux, à gauche, à droite. Ils tiennent dans la main. Ils font 10-12 cm. Ils sont donc petits par rapport à leur extraordinaire pouvoir d'épuration. Et donc, ils sont très précieux.
Quels sont les symptômes qui doivent alerter sur une possible maladie rénale ?
Alors, les symptômes, on peut dire que la survenue d'une hypertension artérielle, elle est très très importante à diagnostiquer parce que dès que le rein souffre, il va fabriquer une hormone qui s'appelle la rénine, qui est puissamment hypertensive. D'ailleurs, l'OMS recommande la mesure de la créatinine, le dosage de la créatinine qui nous sert à évaluer la fonction de filtration du rein dès lors qu'on découvre une hypertension artérielle. Le deuxième élément, et ça Michel Coulon pourra en parler également parce qu'ils se sont beaucoup battus pour rechercher la présence d'albumine dans les urines. Le rein est un organe très silencieux en dehors de l'hypertension artérielle et de l'albumine, comme s'il pleurait de l'albumine dans les urines. Si on ne la recherche pas, cette albumine, eh bien on peut détruire très silencieusement ses reins et les symptômes physiques n'apparaîtront que quand le rein est détruit à plus de 90%. Et là, malheureusement, c'est la mise en dialyse et c'est encore trop souvent le cas. C'est pour ça que moi, je rends vraiment hommage à France Rein parce qu'ils ont mis en place cette semaine nationale du rein qui est très intéressante et qui encadre la journée mondiale du rein qui a lieu le deuxième jeudi du mois de mars dans le monde entier pour dépister ces maladies rénales puisqu'en réalité, elles deviennent une cause de mortalité. Elles sont la sixième cause, mais qui remonte sur le podium, entre guillemets, si vous m'autorisez l'expression, de plus en plus, alors que nous disposons de moyens très utiles, très concrets.
Michel Coulon, pendant cette semaine nationale du Rhin, on va pouvoir se faire dépister gratuitement partout en France.
Oui, tout à fait. Alors, la semaine nationale du Rhin, on en est à la 14e année, hein, et c'est en fait un partenariat avec la Fondation du Rhin, il y a 14 ans maintenant, et comme l'a dit Isabelle Tostivin, c'est pouvoir encadrer en même temps la journée mondiale du Rhin, d'où l'importance de travailler en étroite collaboration et en partenariat avec les sociétés savantes, avec les services de néphrologie de partout. Et donc, nous avons mis en place cette semaine nationale du Rhin de partout, dans toute la France, dans les départements et territoires d'outre-mer, avec notre maillage associatif, 23 associations régionales réparties sur toute la France et dans les territoires, départements et territoires d'outre-mer pour permettre véritablement d'être dépisté gratuitement.
Alors comment se déroule très concrètement ce contrôle technique entre guillemets des reins ?
Alors il y a quelque chose qui est très simple, hein, dans un premier état, c'est de la prise de tension des personnes pour voir si effectivement elles sont sujettes à un risque d'insuffisance rénale. C'est également évaluer un petit peu les antécédents médicaux et les antécédents familiaux qui peuvent être aussi source de risques. Et ensuite, c'est avec une bandelette urinaire, hein, rechercher la protéinurie, l'albuminurie et éventuellement des traces de sang dans les urines qui sont les principaux indicateurs qui vont montrer le risque potentiel d'une insuffisance rénale. Et dans ce cas-là, si il s'avérait qu'il y ait un positif, eh bien de pouvoir orienter vers les équipes médicales et compléter par un bilan sanguin qui, à ce moment-là, avec la recherche de créatinine, évaluerait plus particulièrement cette fonction rénale.
À partir de quel âge doit-on se faire dépister ?
Il n'y a pas véritablement d'âge pour se faire dépister. Je crois que, comme il a été indiqué à peine, c'est une maladie qui est tellement sournoise. Malheureusement, encore 30% de patients, de personnes arrivent au stade terminal, ce qu'on appelle terminal, c'est-à-dire lorsqu'on on doit avoir recours à la suppléance, c'est-à-dire la dialyse ou la transplantation. 30%, c'est un chiffre qui paraît énorme encore aujourd'hui avec les moyens que nous pouvons avoir. Donc, il n'y a pas véritablement d'âge surtout. Si on a des risques, qui, comme on l'a évoqué, qui risquent de nous orienter vers une insuffisance rénale.
Il y a des maladies qui touchent spécifiquement les jeunes, dès l'âge de 18 ans, c'est très important de se faire dépister. On peut aussi souligner le travail en collaboration avec certaines ARS, notamment l'Île-de-France, avec des réseaux. Les ARS, les agences régionales de santé, qui font un travail formidable, en particulier en Île-de-France, avec le réseau RENIF, avec des données épidémiologiques dont nous manquons beaucoup, nous, les néphrologues. Nous sommes très connus pour la face émergée du travail, qui est la prise en charge en dialyse, en transplantation. En réalité, tout en amont, vous avez compris qu'il y a tout un dégradé. On parle de dialyse quand stade 5, il faut dialyser ou transplanter. Mais vous avez 4 stades en amont où vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc on dépiste également, pour compléter le dépistage, on dépistera aussi la glycémie, enfin on dépiste le diabète. On mesure et on toise, on calcule l'indice de masse corporelle parce que les personnes souffrant d'obésité ont un risque rénal associé, augmenté.
Et à quelle fréquence faut-il faire ce dépistage ?
Alors, selon les facteurs de risque rénaux qu'on présente, je m'explique. Tout le monde connaît les facteurs de risque cardiovasculaire que sont l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, la sédentarité, le tabac, etc. On les connaît tous et on sait, on peut dire qu'on peut faire un copier-coller de tous ces risques, facteurs de risque cardiovasculaires, tous ceux qui touchent le cœur et potentiellement délétères pour les reins. Et donc, dès lors qu'on a une surpoids, on parle de la diabésité mondiale, hein, notamment sur le continent africain, on sait que c'est vraiment très très important, c'est-à-dire une obésité qui se complique d'un diabète. Et là, dans ces cas-là, le rein souffre terriblement de ces deux maladies.
Je reviens à ma question, à quelle fréquence faut-il se faire dépister ?
Une fois par an, c'est un minimum quand on a ces maladies-là. Et les médecins généralistes, les diabétologues et même les cardiologues sont très sensibilisés.
Est-ce qu'il existe des autotests qu'on peut faire soi-même à la maison ? Docteur Tostivin ?
Alors, on peut se dépister l'hypertension artérielle. Simplement, il est préférable d'être accompagné parce que dès lors qu'on parle du rein, tout le monde ne pense qu'à la dialyse. Et encore une fois, on a beaucoup de choses à faire en amont. Donc, on déconseille en dépistage, surtout à la veille de la Semaine nationale du rein, d'être accompagné.
On a beaucoup de questions d'auditeurs sur les calculs rénaux très douloureux. 10% de la population en souffre. Abdourahmane, bonjour. Abdourahmane, vous nous appelez. Bonjour Abdourahmane, vous nous appelez de Bamako au Mali. Michel Coulon et le docteur Tostivin vous écoutent.
Bonjour.
Bonjour madame. En fait, depuis 2011, un mois d'avril 2011, donc ici tout est commencé avec des enflements des pieds, des mains et du visage. Donc après le lendemain, j'étais parti pour faire une échographie abdominale. Il s'est avéré que j'ai 3 mm de microliathèse. Donc à l'époque, le chirurgien a dit que ça nécessitait pas qu'on fasse une intervention chirurgicale, mais à compléter avec ECB, électrochirurgien bactérien, avec de boire beaucoup d'eau. Donc dès lors, il m'a prescrit aussi qu'on produit 60 que je prenais. Et à un moment, les douleurs quand même sont parties, mais après, je sens toujours des douleurs au niveau de ma hanche, au niveau vraiment de mon abdomen, jusqu'à preuve du contraire. Et que quand je me lève, quand je suis assis, souvent j'ai du mal à me lever, donc ou quand même après le sommeil. J'ai aussi du mal vraiment à me tenir sur les deux pieds. Je sens une douleur, il faut peut-être quelques minutes pour que les douleurs disparaissent. Et donc, je me demande si ces douleurs sont dues à quoi ou quand même les nerfs sciatiques a un lien avec les reins, parce que je sens toujours les douleurs.
Vous posez des très bonnes questions, Abdourahmane. En pratique, la douleur de la colique néphrétique, la douleur liée à l'obstruction du tuyau entre le rein et la vessie, ça peut créer une très violente douleur. Quand je vous écoute, Abdourahmane, j'ai bien compris que vous aviez un calcul de 3 mm, ce qui est très petit. Alors, s'il n'est pas dans ce tuyau, le calcul ne peut pas être responsable de tous les symptômes. Et comme vous l'avez très bien justement dit, le nerf sciatique pourrait être irrité, notamment puisque vous avez l'irradiation de la douleur dans la hanche jusque dans le pied. Donc, parfois c'est compliqué parce que le rein il peut être donc là dans la fosse lombaire, mais je pense que vous avez raison et qu'il faut creuser la prise en charge de la sciatique. Et par rapport au calcul, la très petite taille du calcul et la symptomatologie que vous me racontez, je suis confiante par rapport à vos reins. Simplement, pour le nerf sciatique, il semble effectivement irrité puisque la douleur, elle est mécanique. Donc, vous avez raison, c'est plus en rapport avec une irritation du nerf sciatique qu'avec le rein.
Comment se forment ces petits cailloux? Est-ce qu'ils sont, pourquoi sont-ils dangereux pour les reins? Et est-ce qu'il y a plusieurs façons de s'en débarrasser?
Alors, ils se forment par un mécanisme qu'on appelle de sursaturation. Je m'explique. C'est un peu, beaucoup, passionnément et tout d'un coup trop d'un composant. Par exemple, ça va être le calcium ou l'acide urique. Et pourquoi ils se forment? Eh bien, pour des tas de raisons. Si on ne boit pas du tout, effectivement, la concentration de ces composés peut augmenter et créer des cristaux, parce qu'on a des bébés calculs qui s'appellent les cristaux. C'est très joli à voir dans les urines et c'est très informatif. Et puis, il y a des de causes différentes, et moi ce que j'encourage les auditeurs à faire, c'est dès lors qu'ils souffrent d'un calcul, il y a un bilan à faire. On peut améliorer vraiment par la diététique, parce que vous avez dit 10%, en réalité c'est de plus en plus 15%, selon le sexe, les hommes c'est plutôt 15%, et je vois que on mange trop de protéines, trop de sel, trop de sucre, trop de gras, et tout ça, ça a des conséquences avec une augmentation, on parle de stone boom millennium, c'est-à-dire d'explosion d'épidémie, et le congrès américain en a fait une priorité également nationale.
Abdourahmane, vous aviez justement une autre question à poser par rapport à l'alimentation.
Oui, en fait, puisque moi, d'éviter trop de la viande rouge, puisque ça impacte les reins.
Oui.
J'aimerais savoir lesquels des aliments maintenant il faut éviter ou il faut consommer.
Ça, c'est une très bonne question. Alors, les conseils. La viande, toutes les protéines, en réalité, quand elles sont consommées en excès, eh bien, le rein doit fabriquer de l'urée, il doit se débarrasser de la charge acide que la viande ou toutes les protéines nous font fabriquer et nous font accumuler. Donc, en pratique, pour avoir une idée claire, on peut dire que les protéines, c'est midi et soir, mais la consommation, c'est la paume de la main, voire un petit peu moins, pour vous donner une idée. Et quand on dit protéines, c'est pas la peine de se rabattre sur le poisson, parce qu'il y a le piège des mangeurs de poissons qui vont manger le bon poisson en entier. Or, c'est largement plus grand que les trois quarts de la paume de la main. Donc, effectivement, c'était un bon conseil qu'on vous a donné, Abdourahmane.
Abdourahmane, merci beaucoup. J'espère que vous êtes satisfait des réponses du docteur Tostivin. Bonne journée à Bamako. On va retourner au standard où nous attend Joël. Joël, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Lubumbashi en RDC. Joël, on vous écoute.
Bon, merci, Madame Chantal. J'ai un cousin qui a été diagnostiqué d'une infection intestinale chronique. Ça fait pratiquement 3 semaines. Et puis là, il est passé à 4 reprises aux examens de dialyse. Bon, ma question est la suivante. Après ces 4 examens de dialyse, il est guéri complètement de cette maladie, bien à chaque fois, il doit encore rentrer à l'hôpital pour encore des contrôles pour d'autres soins. C'était ça vraiment ma préoccupation.
Alors, est-ce que le cousin de Joël va devoir faire des dialyses toute sa vie?
Alors, c'est difficile sans connaître l'histoire de la maladie rénale. On peut dire toutefois que si on lui a diagnostiqué l'insuffisance rénale chronique, l'espoir de guérison et de sortie de la dialyse, il est très faible. En revanche, si c'est une histoire aiguë dans la suite, par exemple, d'une infection du sang, dans la suite d'une infection de la prostate, on a un espoir de guérison et de sortie de dialyse. Ce sont deux choses très différentes. Le côté aigu et le côté chronique.
Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'insuffisance rénale chronique et d'insuffisance rénale aiguë.
Exactement,
c'est ça la différence.
Voilà. Et donc, l'insuffisance rénale aiguë, il faut savoir que dans les pays, en Afrique, elle est très importante et liée au manque de prise en charge de certaines pathologies, de certaines maladies infectieuses, notamment avec des déshydratations, des diarrhées. Et c'est une cause contre laquelle on se bat, néphrologue, pour réduire aussi beaucoup cette morbidité, enfin ces maladies. Pour l'insuffisance rénale chronique, eh bien, très probablement, il faudra songer, à instaurer un traitement et envisager voilà la greffe, même pour l'Afrique. On espère que, compte tenu des échanges Nord-Sud, un jour la situation, les choses bougent hein, déjà. Il y a beaucoup à faire encore, mais
Michel Coulon, comment intervient votre association France Rein quand une insuffisance rénale est diagnostiquée chez quelqu'un? Est-ce que c'est toujours un choc pour le patient et pour la famille parce que ça induit ensuite un changement de vie?
Oui, effectivement, hein, l'annonce d'une maladie, une maladie chronique et l'insuffisance rénale qui... Alors, on n'est jamais préparé véritablement à la maladie, mais soit on la découvre brutalement, est-ce qu'on évoquait à peine 30% des cas, donc là le choc est véritablement très très fort, soit on est dans le cadre d'une progression de l'insuffisance rénale pour arriver à un stade terminal, hein, c'est-à-dire un stade avancé où ça nécessite une suppléance. Hein. Donc on a différentes phases et d'où l'importance d'accompagner toutes ces personnes qui sont confrontées donc à la maladie. Alors accompagner bien sûr le patient, mais accompagner également l'entourage. Et nous avons à France Rein comme je dirais devise, hein, si vous permettez l'expression, c'est de véritablement considérer que la prise en charge est optimale à partir du moment où on l'examine sur l'aspect médical, social et psychosocial. C'est-à-dire que on regarde l'intégralité donc de la personne, de l'être humain confronté à la maladie et on y est régulièrement et on est malheureusement amené à intervenir auprès de certaines familles, enfin je dis intervenir sous la forme d'accompagnement pour expliquer, aider à organiser les familles, à éviter y compris des séparations brutales. Donc la maladie, enfin, je crois que ce que nous essayons de mettre en avant, et c'est le projet de vie de la personne, c'est de dire que malgré la maladie, ce qui doit dominer, c'est le projet de vie de la personne. Donc essayer d'éduquer, au travers notamment de l'éducation thérapeutique ou d'autres formes d'accompagnement, éduquer la personne malade pour qu'elle puisse avoir un objectif dans sa vie et que l'objectif ne soit pas exclusivement la maladie. La maladie est une des composantes de la vie. Et donc, ce qui doit primer, c'est le projet de vie de la personne malade et l'accompagner, l'aider pour pouvoir eh bien, gérer ces différentes situations. Donc, ça passe alors, par un accompagnement social et psychosocial.
Merci Joël de nous avoir appelé de Lubumbashi. Bonne journée à vous. On a des questions sur Facebook. Abderrahim du Tchad nous demande, est-ce que la consommation d'eau contenant du calcaire peut nuire aux reins? Docteur Tostivin.
Alors, la consommation d'eau contenant du calcaire peut-elle nuire aux reins? Quand on a de l'eau avec des dépôts de calcaire, alors je sais qu'en France, quand il y a des dépôts au fond du verre, c'est 100 mg par litre maximum. Alors, si les eaux sont riches en calcium, effectivement, si on boit trop d'eau riche en calcium, trop riche en calcaire, supérieur à ses besoins, le rein, puisqu'il veut réguler l'ensemble, hein, c'est une station d'épuration chimique extrêmement ciselée, et on va se débarrasser du calcium dans les reins. Donc effectivement, il peut y avoir un risque.
Fodé Moussa de Bissau, en Guinée-Bissau, nous demande, est-ce qu'une carence en vitamine D peut entraîner une maladie rénale?
Alors, présenté sous cette forme-là, probablement non, exclusivement par la carence. Ceci étant, la vitamine D, c'est une pro-hormone très très précieuse pour l'équilibre cardiovasculaire, pour la réduction de l'albumine dans les urines, etc. Donc les carences sont mauvaises, effectivement.
Roger de Ouattara en RDC, est-ce que le fait d'uriner toutes les 30 minutes peut être le symptôme d'une maladie rénale?
Alors si on urine la nuit, effectivement ça peut alerter sur la capacité de concentration du rein, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Donc ça peut être aussi une prostate qui appuie sur la vessie, ça peut être beaucoup d'autres choses.
Know that I am plain to see, yeah, yeah. tired of playing this crazy game. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah.
Hello, Lenny Kravitz sur RFI, extrait de son dernier album Raise Vibration. Vous écoutez Priorité Santé, des reins en bonne santé pour tous et partout. À l'occasion de la Semaine Nationale du Rein, nous faisons le point sur les maladies rénales avec le docteur Isabelle Tostivin, néphrologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et Michel Coulon, président de l'association France Rein. On va partir à présent pour le Mali. Docteur Soumaïla Diawara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes néphrologue à la polyclinique Guindo à Bamako. Première question, combien y a-t-il de néphrologues au Mali ?
Au moins, on a au Mali actuellement une quinzaine. Depuis l'ouverture du centre de formation des néphrologues au Mali en 2012, je crois que beaucoup de choses ont été faites dans ce sens-là. Il faut remercier les encadreurs.
Est-ce que les néphrologues sont centralisés sur Bamako ou est-ce qu'il y en a dans plusieurs régions du pays ?
Non, au moins dans une ou deux régions, il y a des néphrologues. Dans la région de Sikasso, par exemple, il y a des néphrologues qui ont été formés au Mali ici, bien sûr. Et dans la région de Morti, il y en a aussi quelques néphrologues.
Quel est le taux de prévalence des maladies rénales dans votre pays ?
En réalité, il n'y a pas d'études faites en la matière par rapport au taux de prévalence des insuffisances rénales au Mali. Et d'ailleurs, c'est l'un des objectifs que nous nous sommes assignés pour avoir quand même une orientation par rapport au taux de prévalence. Et dans le cadre de ce même objectif, nous nous sommes dit qu'il va falloir que nous essayions de voir dans quelle mesure on peut avoir un taux de prévalence, c'est-à-dire par rapport à la crise de Bamako. Nous organisons à partir du 14 mars, en partenariat avec la mairie de la commune de Bamako, une grande manifestation pour la 19e édition de la semaine de la Journée mondiale du Rein, avec une journée en deux étapes. Une grande conférence débat avec la population pour expliquer l'insuffisance rénale.
Conférence qui a lieu pas seulement en français, mais aussi en langue locale.
Bien sûr qu'en français et en bambara, avec la population entière, de la commune Saint-Hélène de Bamako, si on peut dire comme ça. Et toutes les questions seront posées, il n'y aura pas de questions tabou ni de questions bêtes. Nous serons à disposition de la population pour répondre à toutes les questions. Après cette conférence débat, il y aura en deuxième étape un dépistage de masse avec la prise de tension et surtout l'examen de l'urine à la recherche de l'albumine ou des signes d'infection urinaire.
Donc, quel est on comprend bien donc qu'il va y avoir du dépistage. Alors, quel est le message que vous voulez faire passer auprès des populations ?
C'est de savoir que l'insuffisance rénale est une maladie comme toute autre maladie. Et que l'insuffisance rénale ne se limite pas non plus à la dialyse. L'insuffisance rénale n'est pas une fatalité. Et enfin, le diagnostic précoce de l'insuffisance rénale est vraiment l'enjeu le plus important. À ce niveau, je m'adresse aussi à mes collègues néphrologues. Et chaque fois qu'il y a une note rénale, l'idéal, c'est d'envoyer le malade le plus tôt possible voir le néphrologue. Autant on a les malades tôt, autant on peut faire quelque chose pour les malades. Enfin, pour qu'ils puissent arriver, si jamais c'est une insuffisance rénale chronique, pour retarder l'évolution, parce que c'est ça l'objectif en réalité, dès qu'on découvre une insuffisance rénale chronique, c'est de bloquer ou alors de réduire vraiment le rythme de l'évolution vers la dialyse. Comme a dit un de mes collègues qui sont avec vous, un tiers des malades peuvent éviter la dialyse si le diagnostic est précoce.
Voilà, il faut vraiment insister sur le dépistage.
Absolument, absolument, le dépistage précoce.
Et il faut dire que les maladies des reins, ça touche tout le monde, hommes, femmes, enfants.
Au Mali, ça touche pratiquement tout le monde, femmes, hommes, enfants. Et parmi les causes les plus souvent, on peut citer l'hypertension artérielle, le diabète, le traitement médicamenteux. À ce niveau, il faut parler des traitements modernes ou même des traitements traditionnels parce qu'il y en a beaucoup au Mali. à ces trois causes, on peut associer aussi les infections urinaires à répétition et aux causes, aussi la cause génétique qui se manifeste le plus souvent par une polycystose urinale. Voilà.
Mais... oui, allez-y. Merci beaucoup, docteur Soumaïla Diawara, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes néphrologue à la polyclinique Guindo à Bamako. Docteur Tostivin, je vous ai vu acquiescer, opiner du chef à plusieurs reprises.
Je suis contente de voir qu'on fait tous la même chose pour cette journée mondiale, enfin, pour le dépistage et puis pour ralentir l'évolution de ces maladies rénales.
Docteur Tostivin, est-ce que les maladies rénales touchent davantage les femmes?
Alors oui, en prévalence, 16% versus 12 ou 14. Alors en pratique, en insuffisance rénale chronique, oui, elle serait plus touchée. Simplement dans des stades qui ne nécessitent pas la dialyse. Alors que pour la population dialysée, il y a deux fois plus d'hommes que de femmes. C'est un facteur protecteur aussi.
Et alors, la femme est vulnérable à tous les âges ou ça commence quand on est vraiment même une petite fille?
Dès lors qu'on est petite fille, hein, vous savez que les toilettes publiques sont insalubres dans 85% des cas. Et donc, malheureusement, il y a des petites princesses qui se retiennent et commencent... alors, elles boivent très peu pour uriner le matin et le soir seulement.
C'est donc, dangereux de se retenir.
C'est très dangereux. Boire peu parce qu'on n'a pas envie d'aller aux toilettes, c'est dangereux. Et ça expose, chez la petite fille, en raison de son anatomie, aux infections urinaires, et qui a fait des infections urinaires risque de faire des infections du rein, hein, la pyélonéphrite, c'est-à-dire quand le germe ne reste plus dans la vessie mais remonte jusque dans le rein. Ça peut même être très dangereux parce que le germe peut passer dans le sang. On parle dans ces cas-là de septicémie. Et donc mon collègue disait qu'il y avait aussi des causes infectieuses.
La femme adulte.
La femme adulte, alors on a la spécificité de pouvoir enfanter. Il y a des maladies spécifiques de la femme enceinte, notamment de l'accouchement. Alors c'est heureusement très très rare, mais on parle de toxémie ou de pré-éclampsie. À la fin de la grossesse, vers le sixième mois, la femme va avoir beaucoup de tension et d'œdème et de l'albumine dans les urines. C'est très spécifique et dans ces cas-là, il faut faire un accouchement très 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 rapide. Et la plupart du temps, les choses rentrent dans l'ordre et nos équipes, en tout cas en France, sont très très habituées à cela.
Donc la grossesse est une période à risque.
C'est une période à risque d'infection, c'est une période à risque de calcul, c'est une période à risque d'hypertension artérielle et c'est surtout l'accouchement. Après, les femmes, elles sont beaucoup plus atteintes de maladies auto-immunes comme le lupus, par exemple. Tout le monde connaît Selena Gomez, par exemple. Elle a été transplantée d'un rein.
La joueuse de tennis.
La chanteuse, en fait.
La chanteuse,
l'américaine qui a reçu un rein qui est transplanté rénal sur une maladie du rein liée à une auto-immunité, donc le lupus. Donc les femmes sont vraiment plus atteintes de ces maladies-là. Et enfin, pour les femmes plus âgées, il y a encore les infections urinaires. Et puis, il faut faire attention aussi au moment de la ménopause.
Voilà, parce que on doit rester vigilant.
Beaucoup de personnes, pour perdre les 3-4 kilos, vont avoir recours à des médicaments qu'on pourrait dire, entre guillemets, traditionnels locaux chez nous, c'est-à-dire des compléments alimentaires à base de ci, à base de ça, pour faire fondre les graisses. Et on peut dire que c'est important d'être vigilant, de ne pas cumuler, surtout quand on prend quelque chose tous les jours. Hein, le rein, il doit épurer cette substance tous les jours. C'est bien de faire un dosage de créatinine pour vérifier que la fonction des reins est correcte.
Et à la ménopause, la sécheresse vaginale, par exemple, favorise les infections urinaires?
Bien sûr, il y a non seulement la sécheresse vaginale, mais il y a aussi toutes les conséquences, par exemple, des gros bébés, des accouchements difficiles, des forceps avec le prolapsus, et qui va favoriser, là encore aussi, les fuites urinaires, les femmes vont se retenir, vont faire boire moins. Et donc, ces fameuses infections urinaires qui touchent entre 3 et 5 millions de femmes par an, c'est énorme. Hein, c'est-à-dire que ce sont des épisodes très fréquents, pourtant totalement évitables par des mesures pratiques simples.
Une question qui revient souvent, est-ce que l'insuffisance rénale a des conséquences sur la fertilité des patientes?
Alors ça, oui, tout à fait, bien sûr, cela peut avoir des conséquences. Ça dépend de pourquoi le rein est malade. Par exemple, les femmes qui ont un lupus peuvent avoir reçu des médicaments qui vont être toxique pour les ovaires. Et puis après, dès lors qu'on est très fatigué, quand on n'a pas été accompagné, qu'on va en dialyse, qu'on a une anémie, etc., il y a des conséquences, il y a une perte de la fertilité. Malheureusement, c'est aussi pour ça qu'on se bat. Et là, France Rein, là, je tiens à les remercier parce qu'ils abordent aussi tous les sujets, y compris, hein, notamment l'année dernière, hein, avec France Rein, on a parlé, bah, qu'est-ce qu'on fait? La contraception, qu'est-ce qu'on fait pour les grossesses? Parce qu'on sait que c'est plus compliqué. Et donc, la transplantation, dans ces cas-là, il faut vraiment la privilégier. Parce que les femmes jeunes, une femme jeune en dialyse, elle souffre plus qu'une femme jeune qui a un cancer métastasé. En termes de retentissement sur la qualité de vie, c'est effroyable. Donc, c'est pour ça qu'il faut dépister. Et donc, les femmes, il ne faut vraiment pas arriver en dialyse parce qu'effectivement, c'est triple peine.
Donc, on revient voilà, au dépistage précoce, fortement conseillé. On va retourner au standard où Georges nous appelle de Libreville. Bonjour Georges.
Bonjour Chantal.
Alors vous aviez plusieurs questions à poser. On vous écoute.
Eh ben, je vais poser juste deux questions. Alors la toute première. Alors docteur, qu'entend-on par pyélonéphrite?
La pyélonéphrite, c'est une infection du rein. C'est quand le germe remonte depuis la vessie, remonte par l'urètre, le tuyau qui relie la vessie au rein, jusque dans le rein. Et le rein, dans ces cas-là, il est infecté, il y a des globules blancs, il y a du pus dans le rein. Ça, c'est la pyélonéphrite. Et c'est potentiellement très grave, donc il faut s'en occuper très vite.
Une deuxième question, Georges?
Oui, la deuxième question, quelle est la meilleure pratique thérapeutique afin de guérir définitivement des maladies rénales chroniques? La greffe ou la dialyse?
Ah. Écoutez, si on pouvait transplanter tout le monde, parce qu'on sait que la qualité de vie est quand même vraiment meilleure en greffe, on préférerait transplanter même avant la dialyse. On parle dans ces cas-là de greffe préemptive et nous sommes très sensibilisés, les néphrologues, puisque on veut dépister en amont de l'insuffisance rénale. Si on peut dépister en amont, on peut organiser les choses pour que on ne connaisse même pas la dialyse. Donc ça, c'est
la greffe, c'est pour se libérer des contraintes de la dialyse.
Exactement, mais là, je pense que Michel Coulon peut parler.
Oui, enfin, c'est la question posée comme ça. Est-ce que c'est mieux l'un ou l'autre?
C'est le choix.
Je crois que le choix, souvent, on n'a pas trop le choix. Hein, tout dépend un petit peu la façon dont les choses arrivent. Ce qu'il faut bien considérer, c'est que ça soit la greffe ou la dialyse, ce ne sont que des traitements. On ne guérit pas de l'insuffisance rénale. Même lorsque l'on est greffé, on a certes une meilleure qualité de vie dans dans la plupart des cas, dans 90% des cas, la qualité de vie est augmentée, nettement meilleure qu'en dialyse, mais ça reste malgré tout un traitement de suppléance de l'insuffisance rénale.
Avec des médicaments tous les
avec
jours.
Avec des médicaments et la contrainte
des... médicaments anti-rejet.
Les médicaments anti-rejet, et donc ces immunosuppresseurs, appelés médicaments anti-rejet, qui doivent être pris de façon très régulière, très stricte, etc. Mais... c'est pas parce qu'on est transplanté qu'on doit se dire tout va bien. Au contraire, c'est là où il faut encore davantage préserver ce rein dont on a pu bénéficier par la générosité et la solidarité, que ce soit à partir d'un donneur décédé ou à partir d'un donneur vivant. Donc bien considérer qu'on ne guérit pas de l'insuffisance rénale, certes on améliore la qualité de vie par la transplantation, mais qui dit transplantation dit aussi nécessité et bien d'avoir les organes pour pouvoir transplanter, et compte tenu aujourd'hui de la prévalence de l'insuffisance rénale, eh bien il faut malgré tout être réaliste, il n'y aura jamais suffisamment de donneurs par rapport aux besoins qu'il y a en matière de transplantation.
On peut donner un chiffre, en 2015, sur plus de 15 000 patients en attente d'un greffon rénal, seulement 3 486 ont pu bénéficier d'une greffe.
Tout à fait, il y a un rein, on est passé à peu près à un rein pour 3,5, 4 personnes, quoi. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, véritablement, il y a... parallèlement aussi au traitement de l'insuffisance rénale, la sensibilisation sur les, sur le don d'organes, sur les, mais ça aussi c'est pas quelque chose qui se décrète spontanément. Être donneur, par exemple sur un donneur vivant, eh bien ça doit se préparer, ça doit être sociétalement éduqué, etc. Donc voilà, on est véritablement dans un enjeu de santé publique où la sensibilisation sur ces questions-là doit se faire très tôt, et d'où l'importance, et je crois qu'il faut que ce soit aussi quelque chose qui soit retenu dans le cadre de cette émission, c'est que le meilleur moyen de traiter l'insuffisance rénale, c'est d'éviter d'être en insuffisance rénale.
C'est de garder des reins en bonne santé.
Les reins en bonne santé, et donc d'avoir une éducation à la santé très tôt, très jeune, et voilà, d'où toutes les campagnes d'information que nous faisons en même temps que dans le cadre de la Semaine nationale du rein, mais tout au long de l'année également, parallèlement au dépistage, ces campagnes d'information et de sensibilisation sur des reins en bonne santé pour tous et partout.
Pour en revenir à la greffe, quelles sont les conditions à remplir pour être greffé, pour recevoir un rein ?
Il y a tout un bilan à faire, parce que les médicaments anti-rejet ont des effets secondaires. Parmi ceux-ci, c'est endormir le système immunitaire. Or, le système immunitaire, il est très précieux pour se défendre contre les infections et contre les cancers. Donc, on va faire un véritable check-up avec des scanners, avec une imagerie, avec des examens, des marqueurs, à la recherche de tumeurs qui seraient toutes petites, pour ne pas prendre le risque que cette petite lésion pousse très très vite. Et donc il y a des examens cardiovasculaires pour vérifier que le système cardiovasculaire, le cœur, les coronaires supportent cet événement assez incroyable qui est la greffe d'un rein d'une autre personne.
À partir de quel âge peut-on se faire greffer ?
Ah, très vite.
Très tôt.
Même les enfants,
d'ailleurs, ils sont prioritaires sur le plan national.
Ce qui va, entre guillemets, conditionner la possibilité d'une greffe chez l'enfant, c'est la place de pouvoir implanter un greffon.
Combien de temps dure l'opération et l'hospitalisation ensuite ?
L'opération en elle-même, ce n'est pas quelque chose de si compliqué que ça. C'est presque plus simple pour le receveur que pour le donneur, par exemple. On pourrait dire, même si les techniques se sont vraiment améliorées, maintenant on a une toute petite cicatrice parce qu'on peut prélever le rein avec de manière robotisée, vous savez, les opérations robot-assistées. Et donc, l'intervention, on branche le rein, non pas au même endroit sous les côtes où sont les reins, qui restent en fait en place. On parle des reins propres, les reins de la personne qui est greffé, qui va recevoir le rein greffé. Elle a 3 reins à l'issue de sa greffe. Elle a ses 2 reins à elle, qui ne fonctionnent plus beaucoup, plus du tout parfois. Et elle va recevoir en fosse iliaque droite, là où on a la cicatrice de l'appendicite, vous savez, eh bien, le rein. Donc en fait, on peut le toucher en bonne santé. Alors on espère, parce que la qualité des greffons, malheureusement, comme il n'y a pas très peu de donneurs, elle n'est plus la même que lors des premières transplantations il y a 50 ans, où les reins duraient toute une vie. Maintenant, dorénavant, la qualité des greffons a diminué et on est obligé de prélever des personnes de plus en plus âgées et malades, malheureusement. Et donc, on sait que la durée est assez limitée. Enfin, on espère que c'est toute la vie, mais ce n'est pas toujours le cas.
Enfin, ça, malgré tout, nettement évolué. Oui. La survie d'un greffon par rapport à certains nombres, parce que d'une part effectivement il y a peut-être la qualité de vie, mais bon, aujourd'hui les progrès de la science font aussi que la conservation du rein avant la transplantation est nettement améliorée, peut améliorer aussi un petit peu la qualité. Il y a beaucoup de recherches dessus, mais aussi tout le travail des immunosuppresseurs, qui est les différentes molécules aujourd'hui qui sont dans les protocoles de suivi des patients transplantés font que, eh bien, on espère, enfin, la durée de vie du greffon s'allonge, quoi. Et alors, vous évoquiez la question du temps de l'intervention et du séjour d'hospitalisation. Alors, le temps d'intervention, effectivement, là aussi, c'est nettement amélioré. Il est variable en fonction des personnes. Une heure à deux heures, quoi. Les séjours d'hospitalisation, là aussi, il y a quelques années, il y a 19 ans, lorsque j'ai été transplanté, c'était 21 jours d'hospitalisation. Aujourd'hui, à 8-10 jours, l'hospitalisation, avant, on était 10 jours en chambre stérile, complet. Là, aujourd'hui, en 2 jours de chambre stérile, après, on peut sortir tranquillement. Donc, il y a une évolution aussi importante et il y a une maîtrise par les professionnels de santé de la technique aussi de la transplantation.
Et à part la prise des médicaments anti-rejet, est-ce qu'on peut vivre normalement avec un rein? Est-ce qu'on peut faire du sport, par exemple?
Bien sûr, on peut faire du sport.
Alors,
on peut faire du sport. Il est vivement conseillé d'avoir une activité physique adaptée plutôt que de faire du sport. Si on faisait pas de sport avant, c'est pas parce qu'on a été transplanté qu'on fera du sport. Quand on voit que certains sportifs font le marathon, n'essayons pas de créer l'illusion que parce qu'on est transplanté, on va pouvoir faire le marathon si on le faisait pas avant. On pourra refaire un marathon si on le faisait avant. Si on le faisait pas avant, on le fera pas après. Mais par contre, avoir une activité physique adaptée pour préserver ses reins, pour améliorer la qualité de l'organisme, bien sûr.
Merci Michel Coulon, président de l'association France Rein, d'avoir été notre invité. Merci également à vous, docteur Isabelle Tostivin, néphrologue à la Pitié Salpêtrière à Paris et présidente de l'association Lune qui va bientôt avoir son site internet.
C'est ça, le 14 mars, jour de la Journée mondiale du rein, lune.fr, lune.fr.
Et je rappelle que votre livre Calcul Réno sort également le 14 mars aux éditions Alpen. Priorité santé touche à sa fin. Merci à Setou Samaké et Ophélie Lassen qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Didier Bleu qui l'a réalisé avec Laurent Hérault au standard pour les appels. Demain, nous parlerons de l'endométriose, une maladie gynécologique encore méconnue, souvent mal diagnostiquée et extrêmement douloureuse. Si vous voulez poser des questions ou témoigner, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Vous pouvez réécouter Priorité Santé en podcast sur notre application Pure Radio et sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Émissions. À demain et portez-vous bien.
Et Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les brillants entrepreneurs, profitez d'une assurance épargne et réalisez vos projets en toute assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.